Bonjour à toutes, bonjour à tous, Jérôme Longuet pour ce journal de la Radio des Nations Unies. Avec en titre la signature d'un accord sur la question du nucléaire iranien, la suite de la conférence d'Addis Abeba sur le financement du développement, la situation en RDC qui est examinée par le Conseil de sécurité, dans le dossier retour sur Haïti et la capacité de résilience du pays, enfin ce sera l'heure de retrouver votre rendez-vous hebdomadaire de Voix de Femmes. L'ONU a salué la signature mardi d'un accord historique sur la question du nucléaire iranien à Vienne, en Autriche, après des mois de négociations acharnées. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Yuki Yamano, et le vice-président de la République d'Iran et chef de l'Organisation sur l'énergie atomique en Iran, Ali Akbar Salehi, ont signé mardi la feuille de route qui établit le processus qui permettrait à l'AIEA, avec la coopération de l'Iran, d'évaluer les questions relatives à un programme nucléaire iranien avec une dimension militaire. Ban Ki-moon a fait part de sa satisfaction, on l'écoute.
Je salue chaleureusement l'accord historique de Vienne aujourd'hui et félicite les cinq membres permanents du Conseil de sécurité, l'Allemagne et l'Iran, d'être parvenus à cet accord. Cela démontre la valeur du dialogue. Je suis conscient de l'immense travail que cela a impliqué et admire la détermination et le dévouement des négociateurs, ainsi que le courage des responsables qui ont approuvé ce document, négocié à grand-peine par les équipes basées à Vienne et ailleurs. J'ose espérer que cet accord mènera à une meilleure compréhension et une meilleure coopération concernant les nombreux défis sérieux au Moyen-Orient.
Suite à Addis Abeba en Éthiopie de la troisième conférence sur le financement du développement, une conférence qui a permis de noter les progrès en matière de traitement du sida, mais aussi de lancer un appel pour l'égalité des genres dans le domaine économique ou encore de promouvoir l'industrialisation. Pourtant, trois obstacles persistent et menacent quelque peu les conclusions de cette conférence. Trois obstacles qui sont surmontables selon le représentant de l'Autriche, Peter Lansky-Tiefenthal.
Un des points, c'est sur une institution intergouvernementale sur les impôts. Il y a une deuxième question qui est basée sur les expériences des négociations au climat, qui donne une responsabilité partagée aux pays développés et en voie de développement. Et il y a un troisième point, surtout sur si le résultat d'Addis devait faire partie ou non du document final du sommet prévu pour le mois de septembre aux Nations Unies à New York sur les buts 2015, l'agenda pour développement durable.
Le Conseil de sécurité s'est penché ce matin sur la situation en République démocratique du Congo. L'occasion pour Martin Kobler, le représentant spécial du secrétaire général pour ce pays, de mettre en avant les avancées réalisées pour combattre les FRPI. Depuis le 3 juin, l'action conjointe de la MONUSCO, de la mission de l'ONU pour la stabilisation en RDC et des forces armées congolaises a en effet permis de neutraliser un quart des forces des FRPI. Martin Kobler qui a toutefois déploré la paralysie dans laquelle se trouvent les opérations de lutte contre les FDLR. Autre sujet abordé, les obstacles à surmonter pour assurer le bon déroulement des élections présidentielles et législatives prévues en novembre 2016. On écoute le représentant permanent de la RDC, Ignace Gata Mavita.
Ces obstacles sont liés au calendrier électoral global, exigé à corps et à cri par l'opposition, qu'il a aussitôt contesté après sa publication. Au financement du processus électoral, à elle seule, les besoins pour l'organisation des élections s'élèvent à plus d'un milliard de dollars américains. À la participation au scrutin de 2015, d'anciens mineurs devenus majeurs en cours du cycle électoral, qui, du fait de la loi électorale, en sont exclus. Cette loi prévoit en effet que cette frange importante de la population congolaise ne pourrait être prise en compte que lors des scrutins à venir, après le renouvellement du fichier électoral et enfin à l'impératif de la sécurisation du processus électoral.
On reparle de l'Ukraine. Selon l'UNICEF, à l'est du pays, près de 1,3 million de personnes ont peu ou pas accès à l'eau en raison de l'insécurité et des dommages subis par les canalisations, tant dans la région de Donetsk que dans celle de Louhansk. Une situation inquiétante, notamment en raison des risques de maladies qu'elle fait courir aux enfants. Malgré des moyens réduits, l'UNICEF poursuit son aide, comme l'explique son porte-parole Christophe Boulierac.
Nous avons aidé 55 000 personnes, parmi lesquelles figurent beaucoup d'enfants, pour qu'elles puissent disposer de matériel d'hygiène depuis le début de l'année. Nous avons, avec nos partenaires, aidé 550 000 personnes dans ces deux régions à accéder à de l'eau saine. mais ça ne suffit pas. Cette réponse doit augmenter. Nous avons besoin de plus d'argent. Nos programmes actuellement en Ukraine sont assez peu financés, uniquement à hauteur de 20%. Et il faut bien comprendre que ce manque d'accès à l'eau potable peut créer des maladies d'origine hydrique. Il ne faut pas oublier que ces enfants sont exposés à d'autres problèmes, qu'il s'agisse des problèmes d'accès aux médicaments essentiels, aux rétroviraux, la vaccination également. Et au total, c'est plus d'1 700 000 enfants qui sont affectés par cette crise dans un contexte d'insécurité.
Enfin, le Yémen, l'OMS a annoncé qu'elle est parvenue à livrer de l'aide médicale dans la province d'Aden où la situation humanitaire est dramatiquement détériorée suite à l'insécurité ambiante et aux limites d'accès. Ces fournitures d'urgence ont été livrées par un convoi de 6 camions pour plus de 84 000 bénéficiaires dans des districts de la province d'Aden. Tsige Chiferao.
Selon un communiqué de l'OMS, les livraisons comprenaient surtout des kits de premiers soins, des médicaments et un approvisionnement pour les soins traumatiques, ainsi que des kits pour le traitement de la diarrhée. Suite à une hausse significative du nombre de cas de paludisme et de fièvre dengue depuis le début de la crise, surtout à Aden, l'OMS conduit des examens de détection rapide pour la fièvre dengue et le paludisme. Pour le représentant de l'OMS au Yémen, le Dr Ahmed Chadoul, la situation humanitaire et sanitaire continue de s'aggraver, surtout à Aden où une partie de la population n'a plus directement accès à la nourriture, au carburant, aux soins médicaux et à l'eau potable. Selon le porte-parole de l'ONU à Genève, Ahmad Fawzi, la situation au Yémen est l'une des crises humanitaires majeures de la décennie. De son côté, le Haut Commissariat aux réfugiés a indiqué que 142 civils avaient péri ces deux dernières semaines, dont 36 enfants et 27 femmes, ce qui porte le total des victimes depuis le début du conflit fin mars à 1670 morts.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Retour sur la situation en Haïti, un pays où selon Mourad Ouaba, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, il importe de construire la résilience. Au micro de Stéphanie Coutrix, il revient notamment sur l'appel transitoire pour Haïti, véritable plan stratégique intégré pour les actions humanitaires et de renforcement de la résilience mis en œuvre par les Nations Unies et ses partenaires sur la période 2015-2016.
Le travail des Nations Unies en Haïti, dans le volet humanitaire surtout, je crois être en pleine mutation. C'est une évolution de l'urgence à la résilience, au travail dans la durée. Si, je pense, dans le passé, nous avons surtout été très réactifs à des crises telles que le choléra, telles que les changements climatiques, ou une sécheresse aujourd'hui, par exemple, telles que le risque d'ouragan, de cyclone, je pense que nous sommes en train d'établir une base de normalisation et d'adopter une approche beaucoup plus préventive au conflit, de construction de la résilience des populations pour qu'elles puissent mieux résister à ces chocs, qu'ils soient naturels ou du fait de l'homme.
Qui sont les membres de la population que vous diriez sont les plus vulnérables ici ?
Les plus vulnérables ici, et je pense partout d'ailleurs, sont les plus pauvres. Non seulement du fait de leur pauvreté, de leur absence de moyens immédiats, mais aussi parce que la pauvreté implique une mauvaise alimentation, souvent, implique souvent aussi un mauvais état de santé, une faible capacité, une faible résilience à pouvoir se maintenir en bonne santé, et donc une plus grande vulnérabilité aux catastrophes naturelles, du fait du manque d'abri par exemple, une plus grande vulnérabilité aussi à la sécheresse, du fait de manque de travail, mais aussi d'une alimentation pauvre, de déficit nutritionnel. Et une faible résistance, je pense, aux maladies qui peuvent être endémiques, comme le choléra.
Y aura-t-il certaines priorités par rapport à tous ces sujets ?
Oui, certainement. Construire la résilience. En une phrase, tout l'appel transitoire vise à construire la résilience du peuple haïtien.
Donc ça veut dire surtout infrastructure, ça veut dire mettre en place plutôt des centres de santé. Comment est-ce que vous décidez ce qui va être en avant ?
Ça veut dire surtout, pour moi, accès à des services plus performants, à l'eau potable, à l'hygiène, donc de santé publique, à un renforcement vraiment de la couverture santé publique, à une amélioration de l'éducation et du système d'éducation, à l'accès à l'emploi, à une meilleure approche, disons, des personnes qui restent encore déplacées du fait du tremblement de terre de 2010.
Il y en a combien à peu près aujourd'hui ?
Je pense qu'il y a près de 60 000, mais c'est un chiffre qu'il faut, je pense, prendre avec beaucoup de caution. Parce qu'une portion de ces 60 000 sont dans des camps qui ont peut-être vocation à être formalisés, à être transformés en quartiers plutôt que de demeurer des camps. Donc, si ces camps ne vont pas être déménagés, si ces personnes ne vont pas déménager, il faut peut-être leur fournir des services de l'État, de l'eau, l'assainissement, hygiène, scolarisation, électricité, etc.
Vous êtes ici depuis un petit peu plus d'un mois. Étiez-vous surpris en arrivant par rapport au travail ou est-ce que vous vous attendiez un petit peu à ce que vous avez rencontré ?
On est toujours surpris le jour où on arrête d'être surpris, il faut arrêter de travailler. Mais j'étais très surpris, je pense, par la multiplicité des défis en Haïti. J'ai beaucoup travaillé dans d'autres missions de maintien de la paix à partir de New York. Et en général, ces missions sont dominées par un cas unique, par un conflit. Et ici, il n'y a pas de conflit. Mais ce qu'il y a, alors, il y a une variété incroyable de défis auxquels on doit faire face tous les jours.
Voix de femme.
Face à la persistance de poches d'insécurité en République centrafricaine, l'experte indépendante sur la situation des droits de l'homme dans ce pays demande à la communauté internationale de financer la mise en place rapide et effective de la Cour pénale spéciale de la Centrafrique. Marie-Thérèse Keita Bokoum plaide pour un soutien intensif et soutenu à la Centrafrique. Le pays a encore, d'après elle, besoin de l'aide internationale, surtout en cette période préélectorale. Elle répond aux questions d'Alpha Diallo.
Il faut dire que la sécurité est le fait maintenant de plusieurs facteurs. C'est le fait du banditisme. Il y a beaucoup d'attaques de criminels qui sont liées au banditisme. Le deuxième fait, c'est le fait aussi bien sûr des groupes armés qui continuent à se battre à l'intérieur et donc ces conflits menacent la sécurité des populations qui sont obligées de se déplacer pour fuir la violence. Et enfin, c'est lié aussi au manque de déploiement des forces de sécurité dans tous les endroits, donc au manque de contrôle de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Donc je crois que toutes ces poches d'insécurité font qu'aujourd'hui, bien sûr il y a eu des progrès institutionnels, bien sûr il y a eu des progrès dans le déplacement, mais la population se sent encore insécure, surtout dans les enclaves musulmanes, où les populations ne peuvent pas sortir de ces enclaves comme elles le souhaiteraient, et ne peuvent surtout pas à Bangui, par exemple, celles des populations musulmanes qui sont au PK5 et qui ne sont pas du PK5, ne peuvent pas sortir du PK5 pour rejoindre leur quartier d'origine.
Est-ce que vous pensez que ces genres de confinement, le fait que les communautés ne se mélangent pas, serait une bombe à retardement?
Oui, c'est une bombe à retardement parce que le fait de rester séparé anime un petit peu la manipulation, je pense, politique de cette division et aussi retarde la réconciliation. Donc il est vraiment important que tous les moyens soient donnés et je pense que les actions sont menées au niveau local par les religieux et par la société civile. Les actions sont menées à Bangui, notamment par des femmes qui sont en train d'agir pour que les gens revivent ensemble. Et je peux vous dire que j'ai même eu des discussions avec des jeunes musulmans du PK5 qui me disent que la vie commence à renaître au PK5 et que les communautés recommencent à vivre un petit peu ensemble dans ce quartier. Les écoles ont été réouvertes, les centres de santé ont été réouverts. Donc il y a des efforts qui sont faits, mais qui, s'ils ne sont pas soutenus, risquent d'être des gouttes d'eau dans la mer.
Vous avez dit devant le Conseil des droits de l'homme que la Centrafrique a une opportunité unique d'avancer résolument vers la paix, la réconciliation nationale, la justice. En quoi ces prochains mois seront décisifs?
Ces prochains mois seront décisifs parce que ce sont au cours de ces mois que vont se faire les préparations pour les élections. Vous savez qu'il y a beaucoup de défis à ces élections et des défis qui sont d'ordre financier, matériel, mais aussi d'ordre humain. Et donc, tous ces défis doivent pouvoir être surmontés avant les élections. Ensuite, on a besoin, la Centrafrique a besoin de l'aide des partenaires et je pense que les partenaires ont déjà manifesté leur souhait d'aider la Centrafrique pourvu que ces engagements soient réels et effectifs pour que nous puissions nous en sortir. Ce sera décisif aussi pour la Centrafrique de mettre en place le comité de suivi des mesures du forum. Vous savez que le ministre nous a dit, les membres ont déjà été sélectionné, mais c'est une décision, un décret qui va mettre en place ce comité. Nous attendons qu'il soit mis en œuvre pour qu'il y ait un suivi efficace et effectif des mesures du forum. S'il n'y a pas de suivi pour le désarmement, s'il n'y a pas de suivi pour les enfants soldats qui auront été libérés, s'il n'y a pas de suivi pour que les femmes puissent avoir un meilleur accès à la justice, s'il n'y a pas de suivi pour que les criminels puissent être mis hors d'état de nuire, pour que la sécurité soit renforcée, je pense que ça va être problématique. Et vous savez aussi que les élections se passent pendant la saison des pluies. Et ça, c'est déjà un handicap énorme. Et si donc les autres défis ne sont pas relevés et qu'on aborde ces élections dans des conditions qui ne sont pas favorables, on peut ne pas voir le résultat qu'on escompte et ça va être aussi une catastrophe humanitaire après puisqu'il n'y aura pas de lien entre le développement qui pourrait suivre et l'aspect humanitaire. Donc ce sont toutes ces questions qui doivent être analysées, suivies de près. Aujourd'hui nous sommes en Centrafrique dans une situation où les défis ont été identifiés, dans une situation où on commence à porter des remèdes. Il faut que la communauté continue d'être constamment à côté de la Centrafrique afin qu'elle puisse surmonter les défis et aller résolument vers la paix.
Voilà, fin de ce journal de la Radio des Nations Unies, un journal à retrouver sur l'Internet. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.